développer ce que nous sommes déjà, mais qui est obstrué par notre inaccompli d'une certaine manière. Le Bouddha a proposé un chemin. Et ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur ce chemin qu'on appelle le chemin à 8 voies. Et en fait, nous n'avons fait que s'intéresser à ce chemin pendant toute cette semaine dans un ou l'autre de ses aspects. Le chemin, c'est d'abord l'intention juste ou la pensée sage. Toujours ce mot en pali, c'est le mot samma. Et il veut dire adéquat, qui unifie, qui réunit, qui ancre. Aussi qui se souvient. Si je me souviens d'être dans la pensée sage, ma pensée va s'orienter différemment que si je suis juste dans une pensée spontanée. Donc il y a cette intention qui travaille beaucoup avec la compréhension sage. Je comprends que le monde dans lequel je vis ne peut pas être parfait et que je n'ai pas besoin de me débattre par rapport à ça. C'est la chose la plus importante. Et j'oriente mes pensées en fonction de cette compréhension. Et la compréhension se développe par la connaissance directe. À chaque fois que j'ai fait ce travail de purification, la compréhension s'ouvre, je comprends mieux. Et c'est vrai que c'est un travail quelquefois rude, parce que nous perdons pied et il n'y a pas de progrès sans perdre pied. Il y a cette jolie histoire que j'ai retrouvée qui décrit exactement ce que nous faisons. Un homme avait abandonné toutes les promesses et les règles de respect de la vie. Il était devenu un soudard impénitent, pillant, s'adonnant à toutes sortes de violences. Et un jour, dans une escarmouche, une blessure faillit mettre fin à ses jours. Si bien que rempli de crainte, il se mit en route vers la caverne d'un saint ermite et lui demanda « Mon père, je voudrais recevoir le pardon pour mes péchés. J'ai peur pour le salut de mon âme. Quelle pénitence puis-je accomplir? Je n'ai peur de rien. » Eh bien, dit l'ermite, je te demande une chose. Tiens ce tonnelet, va le remplir d'eau et rapporte-le-moi. C'est une pénitence pour un enfant, dit l'homme. Il se dirigea vers la rivière, plongea le tonneau dans l'eau, mais quand il le ressortit, il était vide. C'est un sortilège, s'exclama-t-il. Il essaya de remplir le tonneau à une source. Au puits du village, peine perdue. Un an plus tard, l'ermite vit arriver un pauvre hère en haillons, un tonnelet vide sous le bras. « Mon père, dit l'homme, j'ai fait le tour des fleuves, des sources, des fontaines, en vain. Je n'ai pas pu remplir ce tonneau. Je ne peux donc pas recevoir le pardon de mes fautes. Mon cœur est si lourd. J'ai trop attendu pour me repentir. » Et des larmes coulaient sur son visage ridé. Une larme, une toute petite larme, glissa de sa barbe et tomba dans le tonneau, qui aussitôt se remplit d'une eau très pure, très belle, très fraîche, la plus limpide qu'on puisse voir ici-bas. Une larme, une seule petite larme de sincérité. Lorsque nous ouvrons notre cœur, notre tonneau se remplit à notre insu. Et ça, c'est ce travail de connaissance directe en lien avec la compréhension. Je comprends que j'ose parce que la pleine conscience est suffisamment solide pour me permettre d'aller dans des zones où je n'ai jamais osé pénétrer. et ça crée un nouveau regard. Et c'est important dans ces deux aspects d'intention et de compréhension de développer ce qu'on appelle chanda, c'est le désir pour notre propre bonheur et pour le bonheur des autres. Il faut le vouloir. Je le veux. Et des fois dans la méditation, c'est tellement important de dire je le veux, je le veux, je le veux. Mais ce que je veux, ce n'est pas une bonne expérience ici et maintenant. C'est cette aspiration à l'ouverture du cœur. Et après, nous nous en donnons les moyens. Et plus nous sommes gratuites dans notre manière de marcher, plus c'est tranquille. On sait bien quand on marche sur un chemin. Si on veut vraiment que la balade soit agréable, même si je veux aller en haut de la montagne, si je passe mon temps à penser à être en haut de la montagne, je ne vois rien du chemin et je ne me fais vraiment pas une chouette balade. Ok, je veux aller en haut de la montagne. Je le veux, je le veux. Mais après, je chemine gratuitement ici et maintenant. Je regarde les petites fleurs, le soleil, les arbres. Quand il y a la pluie, je respecte la pluie. Ça, c'est le premier aspect du chemin, ce qui est lié à la compréhension, à l'intention et à la pensée. Le deuxième aspect, c'est l'exercice de la méditation. C'est que ce que nous avons fait pendant toute la retraite, l'effort sage entre présence, concentration, tous ces outils que nous explorons. Et peu à peu, nous nous rendons compte que méditer, ça n'est pas avoir quelque chose, mais c'est s'ouvrir à tout. Et nous méditons autant sur le coussin que pendant que nous marchons, que devant le feu, que lorsque nous mangeons. On peut voir tous ces moments où un événement crée un ressenti, perception, déconstruction. Je suis dans le monde, c'est cette danse de la vie qui fait que quelquefois les pensées sont très bénéfiques. Et quelquefois tout à coup, ça change, anicca, l'impermanence. Donc, les outils, tous ces outils ne servent qu'à une chose, apprendre à nous lier au chemin de la bonne manière et à nous ouvrir à chaque chose que nous voyons sur le chemin que nous parcourons. Et au fond, dans ce retournement lié à l'exercice de la méditation, nous donnons beaucoup de pouvoir d'abord à beaucoup de choses. Nous donnons du pouvoir à nos pensées, à ce que moi je vous dis, vous essayez ce que je vous dis, ça marche plus ou moins. Si vous voulez vraiment calquer votre expérience sur ce que je vous propose, ça ne marche pas du tout. On donne beaucoup de pouvoir à l'autre. Même dans une retraite, les gens que j'aime bien, les gens que j'aime pas, les choses que j'aime bien, les choses que j'aime pas, les moments de la journée que j'aime, ceux que j'aime pas. Il y a cette identification qui est une forme de pouvoir que je donne. Et ça tombe. Et l'équanimité s'installe. Et c'est bon. Il y a juste ça. Et tous ces outils, ils servent au fond rien qu'à ça. À ce que on est juste ça. L'autre jour, j'étais chez ma tante Madeleine. Elle a 92, elle est dans un EMS. Et puis, on a mangé ensemble. Puis, de temps en temps, elle est bien là. De temps en temps, elle est un petit peu ailleurs. Elle ne sait plus bien. Puis après, je la ramène dans sa chambre. Et puis, elle me dit, mais tu vois, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je lui dis, ah, ouais, ben, tu sors moi aussi, hein. Alors moi, c'est vrai, des fois, je me dis, mais au monde, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ok, on marche sur un chemin. Mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est bon de... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien quand elle m'a partagé ça. Je me suis dit, mais c'est exactement comme ça que je suis. Mais qu'est-ce que je fais là? Comme si on m'avait flanqué dans un EMS et puis que... Ah ben, je fais quoi là? Et c'est bon de pouvoir juste le conscientiser et d'être là avec ça. Plutôt que je sais, je vais... Maintenant, je fais mon enseignement, après, je vais me coucher, ou bien après, je vais méditer, après, je me fais un thé, après... Oh, c'est fatigant, hein, mais qu'est-ce que je fais là? Et ça, c'est une attitude qui est vraiment celle qui s'installe quand nous questionnons plutôt que de répondre. C'est une attitude qui énergétiquement nous met dans les joies de l'incertitude. C'est Mila Repa qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les joies de l'incertitude. Et le dernier aspect du chemin, c'est ce qu'on appelle Sila, l'éthique. Et comme nous allons retourner demain dans le monde, certains avec beaucoup de joie et d'anticipation, d'autres avec beaucoup d'appréhension et de réticence, d'autres mitigés, un peu de l'un, un peu de l'autre, hein. L'effort juste, c'est important de savoir qu'il est différent en retraite que lorsque nous revenons dans nos vies. En retraite, la quête, c'est une quête de rencontre avec la totalité des énergies de l'ombre et de la lumière. Et il faut faire un travail pour lâcher cette notion du bien et du mal qui fait que quand c'est bon, et quand c'est pas bon, en retraite, ce qui fait du bien, c'est de pouvoir intégrer. Et dans l'effort sage, lorsque nous voyons ce jugement qui fait que nous tenons à distance, ou lorsque nous avons peur d'avoir peur, intellectuellement, il y a cette voix qui nous dit, mais attends, est-ce que tu es vraiment dans la cible? Est-ce que tu ne peux pas lâcher un peu là? Oser venir dans cette intimité? En t'ancrant dans l'intention juste. Tu n'y vas pas pour être submergé, pour succomber, mais pour voir, pour purifier. Et nous vérifions cet effet purificateur de la pleine conscience. Mais l'effort juste dans nos vies, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il faut... Et nous le faisons absolument naturellement, orienter notre parole et nos actes et notre façon de vivre de manière claire vers ce qui est bienfaisant et bénéfique. Donc, le sens du bien et du mal, c'est important que nous le portions en conscience pour vraiment éviter de faire ce qui est source de souffrance et faire un effort pour faire ce qui est source de bonheur et de bienfaits, de ressentis bénéfiques à nous-mêmes et aux autres. Pour ne pas créer de karma négatif. Il n'y a pas de problème si nous créons du karma négatif, c'est pas que ce soit un problème, mais c'est de la souffrance et il faut repurifier ce que nous créons de négatif. Il n'y a rien qui se perd, rien qui... D'une certaine manière, le réel fait que ce que nous mettons en place qui est source de souffrance va revenir sous forme de remords ou de... ou d'image, et il faut pardonner, il faut repurifier. Ça peut se faire tout de suite, hein, quelquefois nous le faisons tout de suite, quelquefois pas. Et la première chose, c'est l'acte juste. Le Bouddha a parlé des préceptes, ne pas tuer, ne pas voler. Ne pas mentir, ça fera partie après de la parole juste, qui est un aspect en soi. se comporter correctement au niveau de la sexualité et éviter les abus. Que ce soit au niveau des drogues, de l'alcool, des choses évidentes, mais aussi les abus de loisirs, les abus même au niveau culturel, et tous les abus que nous infligeons à la terre, trier nos déchets. Le Bouddha n'a pas eu besoin d'en parler à l'époque. Mais aujourd'hui. Là, je lisais le petit livre sur les chartreux. Les chartreux ne mangeaient pas de viande, ils mangeaient du poisson, pas trop. Ils mangeaient des œufs et des produits laitiers que 3 fois par semaine et jamais pendant le temps de carême. Ils jeûnaient 200 jours par année. Et un jour, tous les, je crois le lundi, un jour par semaine aussi, et pendant le carême. Nous sommes une société abusive. Donc c'est une réflexion à avoir et un exercice à établir comme effort sage de méditation dans nos vies. C'est pas juste je trie mes déchets. Je trie mes déchets, je participe à mon travail méditatif. Je le fais consciemment et il y a quelque chose de plus que de juste, ok, on m'a mis 3 caisses là, hop, hop, hop. Il y a donc cette interaction, le chemin, ce n'est pas des aspects séparés, tout ça va ensemble. On le sépare pour mieux le définir, mieux le travailler. Mais l'intention, elle est là. Je me souviens que j'ai le droit de sourire à l'autre pour lui faire du bien. J'ai le droit d'être généreuse, d'être positive, d'être ouverte. D'être tendre et calme. Et bien sûr, ça n'est pas un idéal, nous n'allons pas toujours pouvoir être dans ces qualités-là. Il ne s'agit pas de prétendre, de culpabiliser ou de se juger, mais d'avoir un discernement. J'aime bien citer la parole de Gurdjieff. Tout ce que je donne m'appartient, tout ce que je garde est perdu à jamais. Juste comme réflexion. Parce que la peur nous fait vivre petit. Le voisin de Nasreddin, il a failli se noyer. Je vais vous lire la petite histoire. Si je sais où elle est. Parce que l'avarice tue. En passant un jour à côté du fleuve, Nasreddin remarqua un attroupement. Il s'approcha et vit un homme en train de se noyer tout près du bord. Les gens lui criaient « Mais donne-nous ta main, donne-nous ta main !» Mais l'homme continuait à se débattre désespérément. Il commençait à avaler de l'eau. Nasreddin reconnut l'homme tout de suite. « Poussez-vous, dit-il, c'est mon voisin, je le connais bien, c'est un avare, il ne donne jamais rien. » Nasreddin s'approcha du fleuve et il cria « Voisin, prends ma main, prends ma main, prends-la !» Le voisin s'accrocha à la main tendue et il fut sauvé in extremis de la noyade. Et souvent, par rapport à la générosité, nous avons un premier mouvement, en tout cas pour moi. J'ai un premier mouvement, puis après je me dis, ouais, mais attends. Alors nous pouvons questionner, mais qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien? User nos appareils. Ça, c'est une grande chose, user nos appareils. On en a affiché loin combien de ces natelles? Moi, pas, je déteste les natelles. Mais si je regarde autour de moi, pfouf. Ou des voitures qui ne sont pas vraiment au bout. Vous pas, hein? Et puis, il y a la parole juste. Le Bouddha a beaucoup parlé de la parole parce que ça va vite, elle sort vite et elle est porteuse de beaucoup de souffrances. Alors, il y a quatre aspects à la parole juste. Que nous pouvons un côté développer et l'autre côté nous abstenir. Nous développons la sincérité et nous nous abstenons du mensonge. Ça ne veut pas dire que nous allons tout dire, mais nous pouvons vraiment avoir une réflexion sur ce respect de l'authenticité dans l'interrelationnel. C'est pas facile, demander à avoir le discernement entre quoi dire, quoi ne pas dire, quoi faire, quoi ne pas faire aussi. Parce que en disant trop peu, on se coupe d'une certaine richesse, et en disant trop, peut-être que nous nous soulageons nous-mêmes, ou il y a cette forme de codépendance où j'ai absolument besoin de dire parce que j'ai vaguement envie que l'autre change alors que ça lui appartient. Et ça n'est bien sûr pas acquis définitivement, nous sommes toujours dans cette danse de la vie. Et puis l'autre aspect, c'est la parole qui est bienfaisante. Dire des mots qui sont porteurs de bonté, faire que les gens s'entendent bien les uns les autres par ce que je dis, que ce soit source de concorde, dit le Bouddha, et s'abstenir de dire des paroles qui séparent les uns des autres. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de discernement, mais vérifier notre intention derrière. Et toujours se souvenir, mais je pourrais être lui, je pourrais être lui ou elle. Le troisième aspect, c'est la qualité de la voix. Nous pouvons dire des choses qui sont dans le contenu source de rencontre, d'unification, mais dans le ton qui peuvent être durs et séparantes. C'est tout le propre du discours paradoxal. C'est très difficile quand quelqu'un nous dit, je sais pas, t'as envie que je reste avec toi? Ben ouais, reste avec moi. Ça arrive, hein? Surtout avec nos proches. Donc, il y a aussi des habitudes au niveau de la voix, hein, des habitudes de protection et de mise à distance simplement dans le ton qu'on emploie. C'est chouette d'avoir juste une réflexion par rapport à ça. Et le dernier aspect, c'est le commérage, ou ce qu'on appelle aussi papancha. Nous commentons tout, nous rassurons nous-mêmes en causant avec l'autre de ci, de ça. Quand ça ne va pas, vite je prends le téléphone. Le silence est bienfaisant. Faire attention à soigner la parole comme quelque chose de précieux, qu'elle porte ce qu'il y a de meilleur. C'est le Bouddha qui dit « Abstenez-vous de dire quoi que ce soit de faux et de blessant. Abstenez-vous de dire quoi que ce soit de vrai et de blessant. » Abstenez-vous de dire quoi que ce soit de faux et d'agréable. Et si vous voulez dire quelque chose qui est vrai et agréable, attendez le bon moment. Et nous pouvons aussi vérifier. Souvent, c'est difficile de vérifier, d'aller demander à l'autre, mais est-ce que je t'ai blessé ? Il y a toutes ces projections réciproques dans l'interrelationnel, dans le dire ou ne pas dire, qui peut rendre les choses complexes. Il y a cette petite histoire. Une jeune fille sortant d'une retraite va à l'aéroport et achète quelques journaux et un paquet de biscuits. Elle s'installe dans un fauteuil de la salle d'embarquement et commence à lire. Un jeune homme vient s'asseoir à côté d'elle et gentiment lui offre un biscuit qu'il a pris dans son propre paquet. Revenant d'une longue retraite, la jeune fille, un peu choquée, travaille la non-réactivité et accepte le biscuit calmement, sans rien dire, sinon « merci ». Et elle observe sans y croire le jeune homme qui mange tout le paquet et qui se tourne vers elle encore une fois, lui offrant le dernier des biscuits. Et puis les passagers sont appelés à monter à bord. Elle ouvre alors son sac pour prendre sa carte d'embarquement et elle voit son paquet de biscuits. Vérifier. Des fois, c'est difficile. Avec la parole juste, nous pouvons voir quand nous commençons à avoir, quand on devient un peu fatigué, l'esprit qui se plaint. Qui se plaint de l'autre, de la situation, de moi. Des fois, on commence à en avoir marre vraiment de la répétition perpétuelle de notre manière de faire et de dire. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. C'est difficile de vivre dans ce corps et cet esprit avec ses limites. Et c'est important de venir avec ces deux énergies du pardon et de la gratitude. Ne pas oublier tout ce que nous avons. Tout ce qu'a l'autre. Quand on commence à se faire tellement de soucis pour l'autre, faire un petit moment de pratique pour vraiment voir mais qu'est-ce qu'il, tout ce qu'il a aussi. Et le faire pour soi. Et c'est vrai que ce qui nous piège souvent, c'est la croyance que, de même que dans l'exercice de la méditation, nous ne pouvons jamais avoir les choses une fois pour toutes. Dans ce travail sur l'acte juste et la parole juste, c'est pareil. C'est un perpétuel recommencement. Parce que les choses changent. Et que peut-être pendant un temps, nous ne sommes pas en contact avec une personne avec qui, quand ça frotte, ça, y a du jus. Okay? Alors on a l'impression, oh ben ça y est, là, j'y suis. Hein? Et hop! Je vous dis encore une petite parole. Une famille marche dans le désert à dos de chameau. Le papa en tête sur le plus grand chameau, la maman derrière, qui assure que personne ne se perde. Et entre eux deux, les enfants, le grand frère, la sœur, le petit frère, ils marchent, il fait chaud. Et comme c'est souvent le cas dans les familles, le petit dernier se plaint. Il soupire, mais c'est long, quand est-ce qu'on arrive? C'est encore loin. Après l'avoir entendu se plaindre plusieurs fois, le papa se tourne et lui dit, arrête de te plaindre, je te l'ai déjà dit, nous sommes des nomades. Et nous sommes des nomades. Ça revient encore et encore. Le chemin, il existe parce que je marche. Et nous pouvons y marcher avec cette intuition, cette intelligence intuitive au cœur, mais en lâchant le but. Le dernier aspect, c'est le mode de vie juste. Ou le mode de vie sage. On peut le prendre de différents côtés. Du temps du Bouddha, c'était surtout ne pas être vendeur d'armes, fabricant d'armes ou boucher ou voleur, criminel. Mais pour nous, c'est une réflexion qui a à voir avec l'effort sage entre ce que je donne au monde et ce que je travaille en moi-même. Comment est-ce que je vais permettre à la graine plantée dans une retraite où les conditions permettent une ouverture extraordinaire de pouvoir pousser? Et ça demande Maharishi le dit, Ramana Maharishi le dit, la paix n'est pas votre droit de naissance. Ceux qui réussissent sont ceux qui persévèrent. Il y a donc une réflexion à avoir pour ne pas se laisser totalement enchanter par la vie ordinaire. Un des mots employés par le Bouddha pour décrire l'éveil, c'est le désenchantement. Donc nous pouvons développer ce potentiel à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je ne suis pas à dire vous devez faire tous les jours parce que le problème, c'est qu'après les gens font un problème de la méditation elle-même. Plutôt, vraiment ancrer, s'ancrer dans l'intention sage et se donner les moyens de pouvoir faire ce que je sens bon de faire pour moi, mais de poser la question et d'avoir de la détermination. Et lorsque je m'assieds pour méditer chez moi, de ne pas avoir une attente quelconque, que que ça ressemble à ce que je fais ici en groupe. Je peux vraiment me dire, ok, je vais aller m'asseoir pour que ce soit l'enfer, mais je m'assieds. Parce que ça n'est pas dans ce que je vis que je mesure les fruits, c'est dans le temps que je donne à l'exercice. Comme le petit prince, c'est le temps qu'il a pris pour sa rose qui rend sa rose importante. J'ai encore une histoire de Nasruddin. Nasruddin s'est marié et il a installé une chaise contre un mur pour exercer la méditation. Tous les soirs, il reste une heure au moins immobile, l'oreille proche du mur, et sa femme le regarde, très impressionnée. Et quand elle veut lui parler, il met un doigt sur sa bouche. Au bout de quelques jours, elle n'y tient plus, elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu entends ?» Le moula sort de son silence et lui dit « Fais comme moi si tu veux le savoir. » Ils sont donc tous deux assis sur une chaise, l'oreille contre le mur, chaque soir. Au bout de 15 jours, la femme dit au moula « Tu sais, j'écoute avec beaucoup d'attention, mais je n'entends rien. »« Mais quelle impatiente tu fais !» dit le moula. « Moi, ça fait 2 ans que j'écoute et je n'ai encore rien entendu. » Le fait d'exercer la méditation sans attente, c'est ce qui fait que nous le faisons. S'il y a trop d'attente, quelque chose s'épuise. Et c'est vrai que le groupe est important. Nous pouvons faire des petits groupes dans les villes où nous habitons. Se donner des moments de solitude. Paradoxalement, le fait de se donner consciemment des moments de solitude diminue le sentiment d'isolement. Parce que lorsque je me mets dans le cœur de moi, dans l'ouverture au dharma, il y a une nourriture spirituelle qui vient. Et cette nourriture spirituelle, elle est aussi nécessaire que la nourriture physique. Alors, dans ce développement intérieur, les choses vont vraiment ensemble. S'il y a des progrès, entre guillemets, des ouvertures du cœur dans une retraite, c'est parce que j'y viens en ayant fait ma part dans le monde ordinaire. Je ne peux pas, si je veux absolument pousser pour développer ce que je veux développer, au détriment de mes proches ou de mes enfants ou de mes parents, il ne va pas y avoir de progrès possible parce que le chemin fonctionne ensemble. Et lorsque consciemment je mets en place un geste de générosité, d'altruisme, où je donne de moi pour l'autre, je cultive le chemin tout autant que si je m'offre 10 jours de méditation. Et ça, c'est important de le savoir. Tout ça, ça va ensemble. C'est un seul chemin qu'on définit avec plusieurs aspects, mais on pourrait le définir autrement. Et le but de tout ça, le but de ce chemin, d'une certaine manière, c'est cette confiance qui n'est plus liée au monde conditionné, à ce que j'ai à l'extérieur ou à ce que je suis à l'intérieur, mais qui est liée au laisser-faire en moi. Je laisse faire l'énergie universelle. Et lorsque nous avons l'impression que tout est perdu, que nous ne voyons plus rien, que nous avons perdu complètement le fil rouge qui était le nôtre, et ça peut se passer en sortant d'une retraite, l'état de concentration est très fin, et tout à coup je me retrouve dans ce chaos du monde, et wow! Juste ce souvenir, je prends refuge. Je me confie ou je demande de l'aide. Ça permet de renouer le fil, le souvenir est là. Un homme ne peut pas plus diminuer la gloire de Dieu, du un, de l'universel, hein, en refusant de la reconnaître, qu'un fou ne peut éteindre la lumière du soleil en peignant en noir les murs de sa cellule. Quand à l'intérieur, je me sens abandonnée de Dieu, d'une certaine manière, c'est là que je suis portée. Je vais finir avec une parole. Vivre n'est pas un capital que nous possédons. C'est une naissance qui nous habite. Il faut accoucher de sa propre vie encore et encore. Vivre, c'est prendre l'initiative en se servant de ses propres limites. Ainsi, vivre cueille sa grappe de chance sur la vigne des risques. Le chemin devient maison et l'homme nomade. Vivre est un chemin qui se fait à pied avec l'espérance au cœur. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes en silence.